Bonjour à toutes et à tous, il est 16h58, nous avons eu 2 minutes d'avance et nous sommes le mercredi 8 février 2023. Vous écoutez Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire, tout va bien. Un petit peu de musique, Frédéric. Eh bien, merci de nous rejoindre au fil des pages, une émission proposée par des passionnés du livre et de la lecture. En fin de journée, là, aujourd'hui, Frédéric, Marie, Dominique qui nous rejoindra par téléphone comme d'habitude, Francis ainsi que nos deux invités, Laure Godineau et Anne Yanover. Nous sommes là de 16h59 maintenant à 18h30 et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct les 2e et 4e mercredis sur Radio Libertaire 89.4 ou bien en allant sur le site Internet de la radio, en direct évidemment, et en podcast. Alors nous rentrons dans le mois de février et avant de parler de nos lectures, Frédéric, est-ce qu'il y a une ou deux annonces ?
Tout à fait, oui, une annonce. Le cinéma de la commune vous propose un hommage à Serge Livrauzet. Projection du documentaire « La mort se mérite », un film de N. Drolk, en présence de Jacques Lesage de La Haye. Donc, cela aura lieu à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Les métros sont Oberkampf ou Filles du Calvaire. Et ça aura lieu le mercredi 15 février 2023 à 20h. Vous retrouverez bien sûr toutes ces informations, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, sur notre blog Fédération Anarchiste Commune de Paris, overblog.com. Voilà, je repasse le micro à Francis.
Alors, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, je vous le rappelle, c'est l'émission Au fil des pages, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Je dois dire que nous avons reçu un petit ouvrage d'Éric Hébert, paru chez Rivière Rouge. Le livre s'appelle La vie en strapantin. Et bien, écoutez, c'est très bien, on va le lire et puis on en fera un petit compte-rendu dans le cadre d'une de nos émissions. Alors, aussi une autre annonce, en plus de celle de Frédéric. La fête du livre. En effet, les éditions Noir et Rouge organisent le samedi 11 février de 10h à 18h et le dimanche 12 février de 11h à 16h une brocante, mais enfin il y a des milliers de livres neufs, d'occasion, il y a de la BD, des romans, des essais, des livres d'art, des livres d'histoire. Et ça, cette fête du livre se déroule à EDMP 8, impasse Crozatier, Paris 12e, et c'est le métro Federbe Chaligny, ligne 8. Donc, 8 impasse Crozatier, la fête du livre, et c'est le week-end qui vient. Alors, ce n'est pas difficile, le week-end, vous allez d'abord à la manif, et ensuite voir la fête du livre, parce que vous serez peut-être un peu chargé en sortant de la fête du livre, mais voilà, le principal, c'est que vous puissiez profiter des deux événements. Alors, nous allons parler d'un livre qui nous a bien plu, de Johann Faber, Parlez-vous le Parcoursup. Ensuite, nous aborderons un petit livre, Lobitomie, comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie. Ça, c'est les deux premiers ouvrages dans la série pour alimenter le débat, comme d'habitude. Ensuite, dialogue avec Anne Janover, directrice du musée d'art et d'histoire Paul-Éluard. Elle nous expliquera pourquoi Paul-Éluard de Saint-Denis, et Laure Godineau, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Nord. Alors, on les invite pourquoi ? Bon, d'abord pour le plaisir de les rencontrer, mais en plus pour parler de l'exposition Insurgé au masculin, insurgé au féminin, regard sur celles et ceux de la Commune de 1871, et cette exposition se tient jusqu'au 6 mars. Et puis il y a un très beau catalogue publié par les éditions Libertalia. Ensuite, un point d'histoire, c'est Frédéric qui va nous parler de la petite histoire du gaz lacrymogène. Et puis Marie qui nous présentera un hommage à André Miquel. André Miquel est un historien spécial, enfin était, puisqu'il est décédé fin décembre, un historien spécialisé sur le monde arabe. Quoi.
Tout à fait, hein? Tout à fait.
D'accord. Ensuite, Dominique nous rejoindra sur les abeilles pour présenter un roman d'Andrei Kourkov, Les abeilles grises. Donc on verra un peu comment les choses vont s'organiser, et peut-être si nous avons un petit peu de temps, eh bien nous pourrons parler d'un ou deux autres livres. Alors, premier temps, pour ouvrir le débat. Un sujet qui préoccupe les lycéens, les étudiants, moi ça nous rappelle des souvenirs, mais aussi les enseignants, bref, Parcoursup. Alors, que devient le monstre ? Marie va nous présenter cet ouvrage. Et puis, on connaissait la novlangue chère à Orwell. Eh bien, voilà le Parcoursup. Parle-t-on le Parcoursup ? Alors, Marie, qu'en est-il ?
Oui, alors depuis janvier 2018, la plateforme d'admission post-bac Parcoursup fait son apparition et se veut plus performante que son aînée APB, dans le sens où elle promeut un système d'admission des néo-bacheliers dans l'enseignement supérieur plus simplifié, plus équitable, plus méritocratique. Mais qu'en est-il réellement à sa cinquième année d'existence ? Plusieurs témoignages d'étudiants de terminale font surface chaque année et sont accablants, car comment imaginer qu'en France, plusieurs dizaines de bacheliers dotés d'un excellent dossier scolaire, 16 sur 20 de moyenne générale et une mention au bac, soient laissés sur le carreau à cause du système Parcoursup qui les discrimine parce qu'ils n'ont pas souvent le privilège, entre guillemets, d'habiter en région parisienne. Et oui, ces lycéens provinciaux qui ont de l'ambition et un potentiel prometteur voient tous leurs vœux rejetés ou en attente et vivent dans le stress de se demander si oui ou non ils pourront intégrer une université au mois de septembre. Tout cela est bel et bien révoltant et c'est pourtant la triste réalité démontré justement par cette plateforme algorithmique. Hein. À travers ce petit essai, Johan Ferber démontre bien le déclin et l'absurdité du système d'enseignement porté par le gouvernement actuel. La fameuse réforme Blanquer sur le nouveau bac ambitionnait d'insuffler un souffle nouveau à l'éducation nationale à travers le modèle d'enseignement plus moderne, davantage centré sur l'égalité des chances. Pourtant, Parcoursup et cette réforme ont toutes deux le point commun de démontrer qu'ils ne sont de toute évidence pas en adéquation avec les moyens matériels et financiers dont disposent actuellement les secteurs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur français. Ils sont en revanche très révélateurs du modèle de société voulu par la politique Macron, un modèle porté par le néolibéralisme ambiant, hein, qui creuse toujours un peu plus le fossé des inégalités et des discriminations géographiques et sociales en France, ce qui encourage d'ailleurs toujours davantage le déni démocratique à grande échelle. Cet essai met en lumière toute la stratégie gouvernementale des Macroniens qui consiste à présenter des réformes médiocres comme des améliorations nécessaires à travers des éléments de langage trouvés en surface, comme c'est le cas avec la réforme des retraites d'ailleurs. Et Parcoursup, est présenté comme un processus nécessaire, en fait, étant donné le surnombre de candidats à l'enseignement supérieur en raison de la faible capacité d'accueil des universités françaises, qui n'est pas un phénomène nouveau, hein. Mais que dire alors du pourcentage de réorientation des étudiants à l'issue de leur première année dans le supérieur ? Il est toujours en hausse, en fait. Hein. Donc ça, effectivement, le gouvernement n'a pas trouvé de réponse à cela. Donc en plus d'être confrontés à l'angoisse que peut susciter les épreuves du bac, les lycéens doivent subir la pression du système Parcoursup, qui les oblige à rédiger des lettres de motivation pour chacun de leurs vœux, des lettres qui pour une grande majorité d'entre elles ne sont jamais lues ni étudiées, en raison du manque d'effectifs bien évidemment. Et puis gare aux erreurs de saisie et aux changements de vœux de dernière minute. Joanne Ferber d'ailleurs souligne ironiquement le fonctionnement de Parcoursup peut être comparé aux plateformes de rencontres mythiques, etc. Justement, parce qu'il a recours à ces fameux algorithmes. Donc,
c'est quoi mythique?
Mythique, les sites de rencontres pour adultes.
Ah, les sites de rencontres pour adultes. Voilà, ça devient chaud sur Radio Libertaire.
Voilà, et donc, je cite d'ailleurs la petite conclusion de l'auteur. Parcoursup doit s'appréhender comme une machine se servant du manque de place dans le supérieur pour rationaliser numériquement en amont le tri social, le tout enrobé d'un récit technologique cool qui, en dernier ressort, présente le portail comme une marque, celle de la fameuse Startup Nation. Voilà.
D'accord. Alors, on rappelle... Le titre du livre, l'auteur et
alors,
l'éditeur.
Alors, Parlez-vous le Parcoursup de Joanne Ferber, qui est un docteur en littérature à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et donc, collection Seuil Libelle.
D'accord.
Paru en janvier 2023.
Bon, on pourra retrouver, bien évidemment, les références, comme disait Frédéric, sur le site, sur le blog du groupe Commune de Paris. Et puis, donc, sur Radio Libertaire, nous avons aussi notre émission qui est enregistrée. Laure Godineau, vous êtes enseignante à l'université. Vous avez un avis sur cette question du Parcoursup? C'est bien?
Alors, non seulement je suis enseignante à l'université, mais je suis mère d'un enfant qui a utilisé Parcoursup l'année dernière. Et c'est horrible.
Oui.
Voilà, c'est horrible pour ces jeunes, c'est horrible pour nous. Alors, il est vrai, on ne lit pas les lettres de motivation. Voilà,
oui.
Parce que nous n'avons pas le temps, parce que nous sommes surchargés. C'est plusieurs dossiers qui arrivent et voilà, on ne les lit pas. En tout cas, à l'université. Et puis pour les enfants, c'est absolument catastrophique. Effectivement, ils sont en permanence soumis d'abord à des choix alors qu'ils sont tout jeunes. Ils ont tout l'avenir devant eux. Donc on les oriente déjà très vite.
Il y a un manque d'informations.
Il y a ceux qui sont refusés, il y a ceux qui sont acceptés, il y a ceux qui sont en attente. Enfin, moi je trouve ça absolument catastrophique. Par ailleurs, c'est une sélection déguisée.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a un manque d'informations aussi concernant les formations en fonction de certaines académies. Bon, c'est sûr qu'à Paris, il y a des salons post-bac, etc. Mais en province, c'est pas forcément le cas. Et il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent justement de ce manque d'informations, qui ne peuvent pas assez s'informer sur les différents...
Il faut dire ce qui est aussi, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'informations et que sont les mieux informés les jeunes qui ont des parents informés.
Aussi,
voilà.
Oui,
donc,
bien sûr, oui, tout à fait.
Ça crée aussi une inégalité que l'on voit,
qui est tout à fait
visible quand on est confronté à Parcoursup.
Oui.
Donc, Parcoursup... C'est vrai que c'est plutôt dans une logique macronienne, et vous avez remarqué qu'on n'est pas très macronien ici. Alors, Frédéric, pour détendre un peu l'atmosphère, deux doigts de Gabriel Fauré, un nocturne 6, là, mais pas très longtemps. Thank you. Bien, je vais maintenant aborder un autre thème qui peut inquiéter par son côté manipulateur, les lobbies. Alors là, c'est un livre de la journaliste Stéphane Aurel qui donne matière à réflexion. En effet, les lobbies, on en parle, on les banalise, on les connaît, en fait assez mal. Et surtout, on ignore leur capacité de manipulation. Alors Stéphane Aurel, journaliste au journal Le Monde, nous propose une analyse particulièrement fouillée de ce milieu dans son livre « Lobbytomie, comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie ». Et le livre a été republié à la découverte avec une mise à jour en 2022. Alors je cite... Lobby des pesticides, lobby du tabac, lobby de la chimie, de l'amiante, du sucre et du soda. On brandit souvent les lobbies comme une force abstraite et sans concours et sans contour. Ils seraient presque des créatures fantastiques en excursion depuis le mystérieux pays du marché, bivouaquant dans les brouillards des textes de loi et doués de super-pouvoirs corrupteurs. Pourtant, leur influence n'a rien de magique. Et les firmes qui constituent ces lobbies ne sont pas anonymes. Elles s'appellent Philip Morris, Exxon, Monsanto ou Coca-Cola. Là, je viens de citer Stéphane Aurel. Alors, et ne mettons pas les experts, vous savez, elle le décrit très bien, vous savez, ces personnes sérieuses, avec lunettes et blouses blanches, sans oublier parfois le stéthoscope autour du cou, et face à cette science... affirmé, en tout cas sur le plan de la photo, de l'image, le Pékin lambda est un nul, évidemment. Et tout est dans la communication, la manipulation. Plus le langage est impénétrable, plus c'est sérieux. Et évidemment, les conflits d'intérêts qui animent ce milieu le sont tout autant. Stéphane Aurel nous guide, au contraire, justement, pour sortir de ce discours impénétrable. Elle utilise un langage très clair pour nous présenter les méandres où le fric, la science, la politique, les principes de santé publique se mêlent, s'annulent pour le plus grand bonheur de l'argent. Alors, nous savons tous, par exemple, que le tabac est très dangereux pour la santé. Eh bien, le lobby du tabac va, à partir d'un constat, détruire la vérification des données en les cachant, en créant un doute sur leur véracité. Ce qu'il faut, c'est mobiliser quelques scientifiques prêts à tout pour un plat de lentilles. Ils produisent des résultats attendus par leurs clients. Et les pouvoirs publics, peu au fait de la complexité technique, et créant des effets non mesurés, se replie avec une lâcheté à toute épreuve, comme nous avons pu le constater avec les produits qui détruisaient les abeilles et qui étaient censés protéger les betteraves. Et les propos du ministre français de l'Agriculture, au lendemain de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a interdit l'utilisation de ces produits, démontre la faiblesse des politiques et, comme le souligne Stéphane Aurel, leur absence de culture scientifique. Alors, il en est de même pour la pollution environnementale, le réchauffement climatique ou des sujets similaires. Rappelez-vous les propos tenus par un certain nombre de responsables politiques sur les bassines qui devaient récupérer l'eau. Alors, Stéphane Aurel présente des enquêtes très fouillées, très factuelles, particulièrement sur les perturbateurs endocriniens. Et elle démontre les laboratoires qui sont créés pour et qui reçoivent des financements publics pour instiller le doute et pour éventuellement couvrir des scandales comme le scandale de l'amiante. Alors je signale à cet effet le livre très émouvant de Virginie Dupérou que nous recevrons dans le courant du mois d'avril, « Amiante et mensonges, notre perpétuité », un livre qui est sorti aux éditions Valmont en 2021. Et c'est peut-être là le pire, c'est que nous savons qu'ils mentent, et pourtant, quand je dis « nous », c'est la société, nous les payons. Et en complément de la science, le droit est mobilisé. Des cabinets d'avocats sont spécialisés pour défendre l'indéfendable. Et alors, on va même encore plus loin, car comme disait Camus, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. C'est-à-dire que on va détourner. On ne parle plus de perturbateurs endocriniens, puisque c'est malvenu. Alors on va utiliser un autre terme. plus soft. Bon. Et puis, bah, vous voyez aussi la capacité à prendre la culture, à user et abuser de la culture. Alors, on va faire des conférences, on va faire des festivals. Regardez, vous polluez, très simple, sponsorisez Mozart et certains festivals, ça marche. Éventuellement, il faut se cacher derrière des associations. Et le tour est joué. Alors là, dans le livre, vous découvrirez les processus, les noms des entreprises, les prête-noms. C'est vraiment un ouvrage très intéressant qui est vraiment très utile pour les militants qui se mobilisent sur ces points. Alors, une des craintes de l'auteur est que le monde qui nous attend soit un totalitarisme à but lucratif qui ressemble à de la pure fiction. Alors, je voudrais citer aussi cette question que j'ai vue dans le chapitre consacré à l'exposition des travailleurs au risque, et on reviendra aussi avec un autre livre. Il y a celui de Virginie Lupérou, mais il y a un autre livre qu'on vient de recevoir là. Eh bien, il y a une question qui se pose. À quel moment la mort d'un travailleur devient-elle un meurtre? On verra un certain nombre de réponses. Donc je rappelle l'auteur, Stéphane Aurel, Lobitomie, le titre, Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie, et c'est paru aux éditions de La Découverte en 2022. Ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais, deuxième temps de l'émission, une rencontre avec Anne Yanover et Laure Godineau. Alors, on va parler évidemment de cette exposition qui, je tiens à le souligner, est une très belle exposition, une exposition très intéressante et qui donne vraiment envie d'en savoir plus. Non, en plus, il y a une librairie qui est très bien achalandée, hein, quand même, chez vous. Donc ça, c'est vraiment... Et puis, il y a ce catalogue qui, pour malheureusement les personnes qui ne pourront pas se déplacer, eh bien, reprend, j'allais dire, quasiment 80% de l'iconographie, des reproductions. Enfin, il y a des reproductions de très, très belle qualité. Alors, on parle souvent de la semaine sanglante quand on parle de la Commune. Mais la Commune, c'était un immense espoir. Et moi, je suis assez passionné par Jules Vallès et les premiers textes de Vallès, la première partie de l'insurgé, c'est tout à fait ça. C'est un immense espoir, la liberté sans rivage, toutes les grandes phrases de Jules Vallès. Et eh bien, on va commencer par une chanson de Jean-Roger Cossimon, qui est une belle synthèse. On la connaît tous, on l'aime bien. La Commune est en lutte. Frédéric, la Commune est en lutte.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La Commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La Commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Alors, bonjour Anne Yanover, bonjour Laure Godineau.
Bonjour.
Merci.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pendant qu'on passait la chanson de Jean-Roger Caussimon, Laure Godineau me disait « J'adore cette chanson ». Alors, qu'est-ce qu'elle est, pourquoi, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ?
Le temps des lilas. Nous aurons les cueillir en des temps plus faciles. Voilà, elle évoque plein de choses pour moi.
Ouais.
Plein de choses de la commune.
C'est vrai que hein, c'est vrai, c'est une chanson synthèse de tout ce que représentait la commune depuis fin mars jusqu'à fin mai et après.
Et après,
parce que la commune n'est pas morte. Ça, ce sera la dernière chanson pour clôturer notre entretien. Alors, Anne, vous êtes la directrice du musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis. Et Laure, vous êtes maîtresse de conférences à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Vous êtes co-commissaire de l'exposition « Insurgés, regard sur celles et ceux de la commune de Paris ». Cette exposition est accueillie, je le rappelle, au musée jusqu'au lundi 6 mars 2023. On va peut-être présenter le musée, puis son exposition et puis son catalogue. Alors, ce musée, on en parlait tout à l'heure, il est trop peu connu. Anne, pouvez-vous nous le présenter ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un musée communal ? C'est un musée privé ? C'est un musée récent, art contemporain ? Dites-nous tout.
C'est un musée public avec des collections publiques qui appartiennent donc à chacun et à chacune. Il est communal, absolument.
D'accord.
C'est un musée municipal qui a été fondé en 1899 et inauguré en 1901. Pas dans le bâtiment où il est aujourd'hui. Il a d'abord été ouvert dans la chapelle de l'Hôtel Dieu de Saint-Denis, qui a été détruit en 1907, puis dans l'actuel bâtiment de la médiathèque du centre-ville, qui est partenaire sur ce projet d'exposition, et depuis 1981, dans ce bâtiment magnifique qui est l'ancien Carmel de Saint-Denis. Un Carmel qui a été fondé en 1625 et qui a la particularité d'avoir accueilli la fille du roi Louis XV, Louise de France, à partir de 1770.
Alors, de Louise de l'Ancien Régime à Louise Michel, quel parcours hein.
Absolument, voilà, le musée des deux Louises, comme on l'appelle souvent.
Voilà, le musée des deux Louises. Alors, il porte essentiellement sur le mouvement ouvrier ou il est plus large, il aborde des questions locales ?
C'est plus vaste que ça. Moi, ce que je propose, c'est une lecture des collections autour des notions de poésie et d'engagement. Je trouve qu'à partir de ces notions, on peut relire l'ensemble de ces collections en leur trouvant une cohérence et en essayant de mettre en lumière les liens qui les unissent, puisqu'on présente trop souvent ces collections comme une série de fonds juxtaposés, comme si c'était un hasard que ces collections se retrouvent aujourd'hui réunies. Ça ne l'est pas. Et il y a un sens à chacune de ces pièces, à chacun de ces ensembles, souvent liés à la commune d'ailleurs, puisque le musée a, dès les années 30, réuni un fonds autour de la commune de Paris pour une exposition qui a eu lieu en 1935. Et ce fonds sur la commune s'est enrichi sans cesse depuis. On continue d'acquérir des œuvres pour ce fonds. Et la présence même de ce fonds sur la commune de Paris a pu attirer d'autres propositions d'acquisition, que ce soit des dons ou des achats. Et on pourrait retracer ainsi l'histoire des collections à travers l'attachement que les artistes ou les donateurs portent à cette histoire de la commune de Paris.
On a par exemple, je crois que c'est un architecte d'intérieur.
Oui, Francis Jourdain, bien sûr, qui a été président de l'Association des Amis de la Commune de Paris, qui a été aussi fondateur du Secours Populaire Français, qui a un engagement personnel très important, que l'on ne voit pas toujours si on ne sait pas le lire à travers les formes qu'il a pu créer, mais si on le cherche, on le trouve. Par exemple, il a créé des mobiliers modernistes, il a absolument révolutionné la manière de créer le mobilier dans les années 1910-1920. Et si on y regarde bien, on voit par exemple qu'il a pu utiliser des matériaux qui n'étaient pas nobles pour faire entrer ces nouvelles formes dans des intérieurs plus modestes. Donc cette notion d'engagement peut se retrouver de manière explicite dans certaines œuvres ou dans certains fonds, ou de manière plus ténue quand on cherche à le voir.
Alors, quand on arrive dans le musée, on paraît un peu perdu. Parce que c'est pas évident dans quelle direction, et on soulignait pour préparer cet entretien, et puis parce que nous avons été visiter le musée, l'accueil, la qualité de l'accueil, et ça faut vraiment le souligner, parce que peut-être parce que moi je me suis beaucoup investi dans le monde territorial, donc je trouve qu'on n'a pas suffisamment d'estime, on met pas suffisamment en valeur le personnel communal, le personnel territorial. Or là, vous avez des gens qui sont intéressés, qui paraissent en tout cas intéressés par leur musée et qui veulent en parler, le mettre en valeur. C'est intéressant. Il y a eu des formations, il y a eu une volonté, il y a un intérêt particulier.
Je pense qu'il y a effectivement une grande qualité des personnes qui travaillent dans cet établissement et qui le font vivre avec beaucoup d'énergie et beaucoup de générosité. Il y a aussi une volonté de mettre en lien, de faire dialoguer les différentes professions du musée. On a la chance, par exemple, dans ce musée, d'avoir une restauratrice d'art graphique, ce qui est assez rare dans les musées de France, qui peut sensibiliser les collègues d'autres services, par exemple à l'accueil au gardiennage ou à la médiation sur des considérations liées à la conservation préventive des collections. Il y a vraiment un véritable partage au sein même de l'équipe. L'équipe de médiation aussi est très généreuse de ses connaissances, de son savoir, de ses curiosités avec les autres collègues. L'équipe qui traite de sécurité va former les autres à ces aspects-là, donc il y a vraiment une belle énergie, de belles synergies dans cette équipe.
Et cette équipe, elle est composée de... est-ce que vous avez des spécialistes en archéologie? Parce qu'il y a aussi toute une partie consacrée aux fouilles que vous avez réalisées autour de la... c'est la basilique. Donc, il y a des techniciens.
On a la chance à Saint-Denis d'avoir une unité d'archéologie municipale avec des archéologues qui fouillent le territoire depuis les années 70. Et ce sont ces archéologues qui ont donc mis au jour ces objets pluriséculaires et qui gèrent, je dirais, les salles du musée consacrées à ces questions. Ce sont eux qui proposent des présentations sur les actualités de l'archéologie.
Et alors, vous travaillez avec d'autres structures locales, la médiathèque, on en a parlé, la médiathèque, alors c'est une structure intercommunale, ça doit dépendre du territoire, ça, pour nos auditeurs qui sont hors de Paris, on n'a pas de communauté d'agglomération en première couronne, on a des territoires, mais enfin ça revient au même, hein, en gros, pour aller vite. Alors, comment vous vous répartissez entre la médiathèque, parce que vous avez des documents communs, comment ça
Alors,
se passe?
On a surtout une histoire commune, puisque je parlais tout à l'heure de l'histoire du musée et de cette exposition conçue dans les années 30 sur la Commune de Paris, cette toute première exposition d'ampleur sur le sujet. À cette époque-là, le musée, la bibliothèque et les archives municipales ne faisaient qu'un. Elles ont partagé un même bâtiment, celui qui est donc l'actuel bâtiment des médiathèques, de la médiathèque centrale, pardon. Et à ce moment-là, elles avaient même un seul conservateur, André Barou, qui a fait le choix de diviser, de scinder les collections, proposant pour les fonds de la bibliothèque, ce qui était alors la bibliothèque, ce qui était les journaux et les ouvrages, les manuscrits, ce qui était affiches a rejoint les fonds des archives municipales, et ce qui était plus, je dirais, qui relevait plus des beaux-arts, les estampes, les sculptures, les peintures, les dessins, au musée. D'accord. Et donc, ce fonds sur la commune a été ainsi scindé en trois. En 2019, on a pu rassembler ce qui était aux archives et ce qui était au musée, puisqu'on a la même tutelle municipale, donc c'était assez facile. Et on a donc rassemblé au musée l'ensemble de ces fonds, y compris les affiches qui se trouvaient aux archives. Mais la bibliothèque était devenue médiathèque entre-temps, et comme vous le soulignez très justement, n'était plus rattachée à la ville, mais à pleine commune. Et donc, il ne nous était pas possible de rassembler sur le plan de leur statut ces collections. On a donc décidé ensemble, à l'approche des 150 ans de la Commune de Paris, il y a déjà quelques années, de travailler ensemble à étudier ces collections et à les valoriser, à les faire connaître à travers deux projets. D'une part, une publication en ligne qui s'appelle Commun Patrimoine et qui a été pilotée par le réseau des médiathèques de pleine commune. C'est une base en partenariat avec la BNF Gallica Marque Blanche, donc, qui permet de consulter ces fonds, et cette base est enrichie régulièrement. Et la deuxième partie de ce projet était cette exposition sur la Commune de Paris, dont l'idée était de rassembler nos fonds et de montrer les trésors que ces fonds recèlent, à la fois ceux de la médiathèque, des fonds patrimoniaux de la médiathèque, et ceux du musée et des archives aujourd'hui rassemblés.
Alors, vous parlez de trésors, moi il y en a deux, il y en a beaucoup, mais il y en a deux qui m'ont impressionné, c'est le célèbre drapeau rouge du 143e bataillon, et puis le manuscrit de l'insurgé quand même, écrit par Vallès. Et ça oui. C'est... Alors, pouvez-vous nous en parler? Comment sont-ils arrivés chez vous?
Alors, le drapeau se trouve dans les collections du musée. Il a été inventorié en 1983. Mmh. C'est le drapeau, donc, effectivement, du 143e bataillon de la Garde nationale, qui appartenait à la 10e Légion, qui était dirigé par Maxime Lisbonne jusqu'au 1er mai. On a plusieurs drapeaux, on connaît plusieurs drapeaux de la commune, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. On a la chance au musée d'en conserver deux. Celui-là est le plus impressionnant, à la fois le plus grand, et puis porte cette inscription « Vive la Commune oui. » qui en fait un objet très, très émouvant. Même s'il a un peu évolué, puisqu'évidemment, ces franges dorées qui l'entourent n'étaient pas présentes au moment des événements de la Commune de Paris.
Mais je pense que sur les barricades, les franges dorées, elles étaient peut-être un peu arrachées au bout d'un moment.
Ça montre la sacralisation de cet objet à travers les années. Le manuscrit de l'insurgé, lui, appartient aujourd'hui aux collections de la médiathèque, des médiathèques de pleine commune. Et c'est une histoire assez complexe et qui n'a probablement pas fini de livrer tous ses secrets, puisque cet objet avait été prêté de manière anonyme à la ville de Saint-Denis au moment de l'exposition de 1935 n'a pas été réclamé à la fin de l'exposition. Il y a un article à ce sujet de Julien Donadi, qui était le conservateur des fonds patrimoniaux des médiathèques, avec lequel on a commencé à travailler à ce projet dans le catalogue et dans l'exposition.
Mmh. Alors on a un personnage dans l'exposition de 1935 qui a un rôle majeur, c'est Lucien Descaves.
Oui, mais Lucien Descaves, c'est l'ami de la commune. Lui-même dit qu'il n'est qu'un communard deuxième degré, hein, parce qu'il est né, il avait 10 ans au moment de la commune, il est né 10 ans avant, en 61. Mais il a rencontré Gustave le Français en 1895, si je me souviens bien. En tout cas, il a été très ami avec Gustave le Français, qui était membre de la commune. Et à partir de là, il a collectionné. Il a collectionné donc à la fin du 19e siècle sur la commune. Et puis, quand Gustave le Français est mort en 1901, donc il a été son exécuteur testamentaire, et là il a confirmé sa volonté de faire un livre sur ce qu'il appelait les vieux de la vieille.
Très émouvant.
C'est absolument émouvant, c'est merveilleux ce livre, Philémon, vieux de la vieille, qui est paru en 1913, donc pendant 10 ans, donc il a collectionné et il a interviewé, enfin si on peut dire ça comme ça, il a fait des entretiens avec les anciens communards, avec les vieux de la vieille, donc il les connaissait, il connaissait c'est très bien la commune. Alors en 35, évidemment, ils étaient morts, mais comme il le dit lui-même, il ne s'agit pas de passer le flambeau, il a cette expression, il s'agit de passer les cendres, parce que sous les cendres, il y a la braise, et la braise, elle est toujours prête à se rallumer. Et donc en 1913, il publie Philémon, vieux de la vieille, et donc c'est pas étonnant qu'en 1935, ça soit lui qui soit sollicité pour rassembler cette collection autour de la commune. Oui. Parce que c'était vraiment le plus proche, probablement, de l'événement et des hommes et des femmes de cette époque-là.
Oui, il les a tous interviewés, enfin, les survivants, bien sûr, interviewés, etc. Et on peut faire le lien aussi avec. Alors, lui, Les Vieux de la Vieille, il y a une récente, une édition à la Découverte.
Oui, une édition avec l'édition critique de Maxime Jourdan et oui. L'introduction et les notes de Maxime Jourdan qui est très très bien.
Ah, donc on a ça et puis on a, et ça je crois qu'on peut le retrouver sur, sur Gallica, c'est la Revue Blanche, le numéro spécial de Félix Fénéon qui interroge les survivants. Là
alors
aussi,
c'est le numéro de, c'est en 1897, c'est l'enquête de la Revue Blanche. Dont je conseille aussi la lecture. Alors oui. C'est sur Gallica, ça a été aussi publié il y a quelques années, republié il y a quelques années. Et là, c'est donc les vieux de la vieille donnent leur impression sur la commune, aussi sur son organisation, ce qu'ils en retiennent, etc. Ça aussi, c'est très émouvant.
Oui.
Mais c'est pas la même chose que le roman que Philémon, vieux de la vieille. Et quand Maxime Jourdan l'a réédité donc en 2019, il y a ce sous-titre, le roman de la commune, de l'exil et du retour. Parce que c'est ça.
Le retour est émouvant, d'ailleurs. C'est... Comment ils se retrouvent, de moins en moins nombreux.
Enfin, le retour est très émouvant.
On ne va pas le décrire, il faut que les gens l'achètent, le lisent. Alors, la Commune de Paris 1871, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une assemblée, un événement, on ne comprend rien. Expliquez-nous.
Ah, alors là, la Commune en deux mots, c'est compliqué, la Commune en deux mots.
Ça y est, c'est fait.
Donc c'est une assemblée, puisque la commune, c'est le conseil de la commune, donc c'est l'assemblée communale, ce sont les élus, puisque après le 18 mars, donc l'insurrection du 18 mars, le 26 mars, donc quelques jours après, il y a des élections à Paris, donc ces élections à Paris amènent un conseil de la commune, une assemblée communale, qui va prendre un certain nombre de décrets importants, qui va donc gouverner Paris libre, d'une certaine façon. Mais c'est pas simplement ça, la commune, c'est aussi tous les Parisiens et Parisiennes communards et communardes. Donc, c'est ce qu'on appelle la commune d'en bas, d'une certaine façon. C'est la commune dans les quartiers, c'est la commune dans les arrondissements. Et puis, la commune, donc, c'est aussi c'est l'insurrection du 18 mars contre le pouvoir et l'assemblée monarchiste. Mais c'est pas simplement ça, c'est aussi une révolution. Donc la révolution communale. Bertin, qui était internationaliste à la Commission du Travail, disait que c'est la révolution de l'égalité sociale. Donc une révolution qui veut mettre en place cette république sociale. Et puis, c'est une révolution, encore une fois, qui veut changer, qui veut mettre fin au vieux monde, puisque c'est l'expression qu'on employait, mettre fin au vieux monde et créer un nouveau monde avec de nouveaux rapports sociaux.
On a souvent cette formule de dire les fédérés ou les communards et communardes de 1871 tendent la main aux révolutionnaires de 1789 et couvrent ainsi le 19e siècle. On s'appelait citoyen, on s'appelait pas camarade.
Ils tendent la main, oui, parce qu'il y a beaucoup de références à la Révolution française, et puis à toutes les révolutions d'ailleurs du 19e siècle, pas que la Révolution
1830,
française.
1830,
et puis juin 48, surtout, juin 48, bien sûr. Mais bien sûr, il y a beaucoup de références à la Révolution française, citoyen, citoyenne. Il y a aussi le comité de salut public au moment de la Commune, d'ailleurs.
Débat, la Marseillaise.
Oui, mais enfin, c'est pas...
On chantait pas l'international.
Si, on chantait la Marseillaise, oui.
Et le chant du départ. La Carmagnole, enfin...
Mais la référence à la Révolution française, elle est plus probable... Et puis le calendrier aussi, le calendrier révolutionnaire, bien sûr.
Oui, tout à fait.
Mais il n'y a pas que ça. Alors, ce sont des Parisiens et Parisiennes qui sont imprégnés par ça, par les révolutions pas la Grande Révolution, la Révolution française, la Grande Révolution, mais aussi les révolutions du 19e siècle.
Oui, et qui... peuple parisien qui s'est fait déjà avoir en juin 48.
C'est ça, oui.
Et qui n'a pas confiance dans la bourgeoisie.
Ah, c'est moins qu'on puisse dire.
Hein, ouais. Ce qui fait que des gens de gauche, quand même, il y a des gens de gauche, parce qu'on l'oublie un peu, mais il y a Louis Blanc qui sera du côté de Versailles.
Ah, absolument. Absolument. Louis Blanc, qui était républicain radical, qui sera du côté de Versailles. Après, il y a des radicaux qui sont moins du côté de Versailles que Louis Blanc, mais enfin, bon.
Sur l'historique des 72 jours, j'invite les auditrices et les auditeurs d'abord à lire vos livres. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est La Commune expliquée en images, que vous avez publié au Seuil, Laure.
Pour le 150e anniversaire.
Et puis, il y a aussi La Commune de 1871, une relecture.
Alors ça, c'est un collectif.
Mais vous êtes dedans.
Je l'ai dirigé avec Marc César.
Oui.
C'est dans la prolongation du colloque qui avait été fait à Narbonne pour le 140e anniversaire en 2011. C'est un collectif. Alors pourquoi une relecture ? C'est pas une révision, attention, hein, c'est une relecture. C'est-à-dire que l'idée, c'était de mettre en valeur les nouvelles approches de la commune depuis 20 ans à peu près. Mmh. Et puis de faire une relecture collective. C'est-à-dire comment chacun finalement apportant son pavé à la barricade arrive permet cette relecture d'ensemble de la commune en insistant davantage sur le quotidien, sur les territoires, sur l'ensemble du territoire et sur les mouvements communalistes ailleurs qu'à Paris, sur l'aspect global, sur les quartiers, sur la commune au ras du sol, c'est-à-dire vraiment encore une fois à hauteur donc ce qu'on a fait aussi dans l'exposition, hein, à hauteur d'hommes, de femmes, d'enfants, etc.
Mmh. Et puis, bon, d'ailleurs, on peut souligner la logique, la cohérence de l'exposition qui permet, pour quelqu'un qui ne connaît pas la commune, d'avoir le déroulement sur l'aspect historique. Les 72 jours, on les voit bien passer, avec en plus des commentaires par différents historiens, notamment quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on va reparler, Éloi Valla, qui est un passionné de Jules Vallès notamment, et puis qu'un grand dessinateur, créateur, vraiment ça c'est important. Donc on est vraiment accompagné dans cette historique des 72 jours, comme j'évoquais. Alors vous êtes toutes les deux commissaires de l'exposition, comment avez-vous travaillé pour le choix des thèmes, la sélection des textes, il y a énormément de textes, et puis les intervenants, c'est-à-dire pourquoi un tel et pas un tel?
C'est toujours une question délicate.
Hey.
Un des points de départ de la réflexion de la construction du parcours était de se dire qu'on avait déjà au musée de Saint-Denis la chance d'avoir des collections permanentes sur le sujet qui proposaient un parcours à la fois chronologique et thématique, assez didactique, qui permet de comprendre le déroulé des événements. Et donc on considérait qu'on n'avait pas besoin de redire, de resuivre tout ce déroulé depuis la guerre de 1870 jusqu'à la déportation. On pouvait s'accorder une certaine liberté pour présenter les choses autrement. Très vite, on a ensemble, et on n'était pas que deux au départ, puisque j'évoquais tout à l'heure Julien Donadi, mais il y avait aussi Florence Treval, Elsa Tilly, on était cinq au départ de cette aventure, à réfléchir ensemble à la manière dont on voulait traiter la question. Et très vite, on s'est dit que ce qui nous intéressait, c'était d'une part de montrer la commune à hauteur d'hommes, de femmes, d'enfants, des individus, des collectifs, des anonymes ou ceux dont l'histoire nous a transmis le nom. C'était aussi de montrer la richesse de ces fonds qu'on évoquait tout à l'heure, des fonds patrimoniaux des médiathèques de pleine commune et des richesses incommensurables des fonds du musée à travers des objets parfois méconnus, parfois très célèbres, certains qui n'ont jamais été présentés ou qui n'ont pas été présentés depuis plusieurs décennies parce que leur état ne le permet pas ou parce qu'on vient d'en faire l'acquisition. Et enfin, de montrer l'actualité de la commune et comment cette histoire brève, 72 jours, il y a maintenant plus de 150 ans, a marqué les esprits et continue d'alimenter des réflexions, des créations, des travaux. Donc on a eu envie d'inviter des personnalités d'horizons divers pour partager leur regard subjectif sur ces événements. Et donc on a essayé ensemble de faire une sélection. Alors au départ, on ne pensait pas avoir tant d'invités, on s'est laissé entraîner par notre enthousiasme, mais il y a tant de gens passionnants qui écrivent ou qui pensent ces questions. On a essayé d'avoir une sélection vaste et qui montre une grande diversité de points de vue. Des historiens et des historiennes bien sûr, mais aussi des philosophes, un philosophe de l'éducation, une philosophe et conférencière, des historiens de l'art ou de l'architecture, des artistes, un metteur en scène, voilà, avoir vraiment une grande diversité, une enseignante de collège qui parle de la manière dont les élèves de troisième ont réagi à cette histoire-là, essayer de montrer comment la commune continue de donner à penser et de nourrir ses réflexions.
Alors, c'est vrai que il y a cette ouverture et cette modernité. D'ailleurs, le titre de votre texte dans le catalogue s'intitule « Ouvrir de nouveaux possibles de pensée ». Nouveaux possibles de pensée, que voulez-vous dire? C'est pas un peu vieillot, la commune, quand même? On fait dans le mémoriel, c'est bon.
Non, la commune...
Laure, là, je vous voyais, Laure, évidemment, les auditeurs ne voient pas, mais alors, elle commence à bouillir.
Ah non, la commune, ça n'est pas... Alors, on a pensé pendant un certain temps, dans les années 1980, 1990, on disait que la commune, c'était vieillot, et puis finalement, on s'est aperçu que la commune, c'était pas du tout vieillot, mais au contraire, c'était un sujet qui peut être un sujet d'actualité, et qu'il est, parce que il y a, alors, ouvrir de nouveaux possibles de pensée, penser autrement la démocratie, puisque dans l'exposition, on montre ça aussi, on pense autrement la démocratie, notamment toute la question autour de la démocratie directe, et de l'expérimentation de la démocratie au quotidien, la question de l'élection, penser autrement l'élection, et la représentation, puisqu'on parle beaucoup à l'heure actuelle de, j'entends, république représentative. Est-ce que la République peut pas être autre chose que la représentation, et comment on entend la représentation? Les élus pour la commune, ce sont des mandataires d'abord.
Oui. Mandat impératif.
Mandataires du peuple, absolument, le mandat impératif. Et donc il y a aussi des petits textes de Michel Riault-Sarcé et de Jean-Louis Robert sur cette question de la démocratie, de la République, du type de République que l'on veut, et du mandat impératif, justement, de l'élu comme mandataire du peuple. Ouvrir de nouveaux possibles de pensée, c'est aussi penser autrement la démocratie sociale, penser autrement les rapports sociaux, tout simplement, enfin la société, c'est penser autrement, c'est réfléchir aussi et questionner la violence d'État, hein, puisqu'il est question quand même dans la salle du bas de la semaine sanglante et de la répression. Donc voilà, et en fait, en réalité, il y a de multiples sujets qui sont interrogés par la commune. Alors attention, je ne dis pas qu'il s'agit de plaquer et de faire de l'anachronisme, mais simplement de se poser des questions, de s'interroger sur le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, et de voir et de réfléchir à l'espoir qui était celui de 1871. Et c'est aussi ça le but de cette exposition, c'est de mettre en valeur tous ces documents et ces œuvres qui ne sont jamais montrées, parce que pour des raisons de conservation, etc. Donc ça, c'est vraiment une richesse du musée, mais c'est de mettre en regard et en dialogue ces œuvres et ces documents avec ces interrogations contemporaines. Et les personnes à qui on a demandé d'intervenir, de faire ces courts textes, finalement posent à chaque fois une question qui nous, en tant que visiteurs, visiteuses, ou bien lecteurs, lectrices, nous amènent à nous interroger aussi sur notre contemporain.
Alors la République représentative, la troisième, va reprendre d'ailleurs un certain nombre de thèmes en les atténuant largement. Mais il y a des points sur lesquels elle va essayer d'avancer avec tous les atermoiements possibles.
Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'elle les reprenne. Bon, disons effectivement qu'on retrouve la question de l'école gratuite, laïque, obligatoire, gratuite, et puis la question de la séparation de l'État, de l'Église et de l'État, bien plus tard, hein, puisque c'est en 1905. Alors, on peut dire déjà que c'est vrai que tous les républicains radicaux, au fond, à la fin du Second Empire, souhaitaient mettaient en avant cette question de la séparation de l'Église et de l'État, et puis cette question de l'école gratuite, laïque, obligatoire, c'était dans le programme de Gambetta, le programme de Belleville en 1869, donc ça fait partie d'un tout. La commune l'a mis en œuvre. Alors on dit oui, la commune ne prend pas finalement réalise peu de choses, mais enfin elle réalise énormément en l'espace de 2 mois et demi.
Et sous le feu de l'ennemi.
Et ce que montre l'exposition, c'est que c'est un travail permanent. Il y a une urgence permanente. Il y a des rapports, il y a des missives, il y a des circulaires, il y a des affiches. Ça n'arrête
Qui sont exposées, qui sont passionnants. Enfin, c'est passionnant à lire. Parfois, on n'a même pas le temps de rédiger. On n'a même pas le temps de l'imprimer, mais on a des textes textes qui sont
ça montre
écrits.
une urgence
c'est l'urgence de la réforme
et
c'est,
avec la guerre quand même avec la situation de guerre avec Versailles. Elle réalise quand même la séparation de l'Église et de l'État, enfin elle décrète la séparation de l'Église et de l'État début avril. Il y a la mise en place dans les arrondissements de l'école laïque gratuite avec c'est bien précisé hein, la laïcité, la gratuité, les fournitures scolaires gratuites dans différents arrondissements.
Une ébauche de droit du travail.
Alors, je vais y venir, je reviens sur la Troisième République. Maintenant, je pense que l'école, enfin c'est ce que montre aussi Duperron, hein, l'école de la République, enfin l'école de Jules Ferry, c'est pas tout à fait la même que celle que voulait la Commune. Et on peut pas dire que l'école de Jules Ferry, certes, c'est la gratuité, c'est l'obligation, c'est la laïcité pour tout le monde. Mais il n'y a pas de volonté d'égalité sociale, loin de là, dans l'école de Jules Ferry. Donc ça, est-ce qu'on peut dire qu'elle reprend ? Je ne suis pas sûre.
Voilà. L'idée de l'école de Jules Ferry, c'est d'apprendre le minimum, lire, écrire, compter, permettant d'occuper une place d'exécutant.
Disons-le, il y avait quand même une séparation entre l'élite et le reste de la société, puisque les enfants des élites allaient dans les classes élémentaires des lycées, et pas à l'école primaire.
Pas les autres.
Donc il y avait quand même un double système.
Tout à fait. Alors, vous êtes aussi, vous avez un souci de ne pas idéaliser la Commune, de ne pas faire croire que tout le peuple parisien était rassemblé et que c'était la grande unité. Quand même dire qu'il y avait des erreurs. D'abord, il y a eu des erreurs fondamentales. Il y a eu des trahisons, il y avait des désertions, il y avait des espions. Vous le montrez, d'ailleurs. En fait, le front était extraordinairement poreux. D'ailleurs, Louise Michel, qui trouve le moyen d'aller à Versailles, qu'aurait pu trucider Thiers.
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que tout Paris n'était pas rouge. C'est ce que montre aussi ce que dit Maxime Jourdan.
Et c'est
extrêmement intéressant. Le 16e, une partie des quartiers, il détermine un certain nombre d'arrondissements qui n'étaient pas favorables à la Commune, qui sont essentiellement les quartiers de l'Ouest et puis les arrondissements aisés. Mais ce que montre très bien aussi Maxime Jourdan, et ce qu'on voit dans les documents, d'ailleurs, c'est assez fascinant de voir ces documents où on s'inquiète des trahisons, des passages d'informations entre Paris et Versailles, alors par l'intermédiaire de Boistallet, le fait qu'il y ait des gardes nationaux qui ne veuillent pas aller combattre, ce qu'on peut comprendre, parce que c'est la guerre, et qui essaient de ne pas aller à l'extérieur, de ne pas combattre. Plus on voit Versailles qui se rapproche, et plus on voit que l'issue quand même va être tragique, plus évidemment on peut se poser la question de savoir si... Enfin, il y a des pas courageux, mais ça c'est... Ou pas courageux en tout cas, ou des gens qui essaient de ne pas aller combattre, mais ça se comprend parfaitement, enfin c'est l'humanité aussi. Et donc qui se cachent ou qui essaient d'échapper au combat de l'extérieur. Oui. Donc c'est intéressant de voir ça parce que... Et on le voit avec des documents à l'exposition qui sont mis en regard avec ce texte de Maxime Jourdan, et c'est intéressant de poser la question tout simplement et de dire voilà, il y avait des gardes nationaux qui ne voulaient pas combattre, il y avait des espions, il y avait des traîtres. Pourquoi c'est intéressant de dire que tout Paris n'est pas rouge? Parce que ça pose aussi la question des freins à la révolution, tout simplement. Il faut bien l'admettre, il y a des freins à la révolution, et qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait
Et pour montrer aussi d'ailleurs que le front n'était pas pour eux, c'est intéressant de voir le rôle de Saint-Denis. Et en fait, Saint-Denis est un peu le sert d'échange avec l'extérieur, vous le montrez, notamment par rapport à la poste, ou des gens qui peuvent passer par les Prussiens.
Oui, Saint-Denis a un rôle assez particulier, ville occupée par les Prussiens, ville de passage des voies de chemin de fer aussi.
Oui.
C'est un lieu, et ça l'est encore, où dialogue des univers différents, et qui est un lieu de passage entre Paris et le reste de la France. Sur Saint-Denis, il y a un très beau texte aussi qui est celui d'Anouk Colombani qui termine le parcours, et où elle dit que la Commune elle tisse les liens entre Saint-Denis et la Commune, et conclut en disant que si on vous le demande, dites que la Commune a eu lieu à Saint-Denis et qu'elle y demeure encore.
Et c'est le titre que j'ai repris d'ailleurs pour mon article sur le site du Monde Libertaire, où effectivement on vit. Bon, puis Anouk, elle est vraiment très investie. Elle organise des parcours aussi sur Saint-Denis. Elle est très investie localement.
On lui a demandé spécialement pour la programmation culturelle autour de l'exposition de concevoir une visite urbaine dans Saint-Denis sur la commune de Paris pour souligner les liens entre Saint-Denis et la commune. Une visite qui se termine dans l'exposition. Et il y en aura une le samedi 4 mars pour le week-end de finissage de cette exposition.
À quelle heure?
À 15h.
À 15h. Donc, important. On peut retrouver toutes ces informations sur le site internet du musée, bien
oui,
évidemment.
Oui, bien sûr. Toutes les informations sur la programmation s'y trouvent.
Alors, à vous deux, qui a choisi l'affiche de l'exposition?
Je dirais que comme le reste a été une décision commune.
Alors c'est Éloi qui est venu vous voir.
Alors c'est nous qui l'avons sollicité. Avec Laure, on avait le souhait, il y avait des éléments graphiques nécessaires pour cette exposition, à la fois pour l'affiche bien sûr, mais aussi pour mettre en valeur ces textes. C'est pas rien, 31 textes, 31 auteurs dans une exposition, et il fallait que sur le plan graphique ce soit fait de manière subtile et pertinente. Et on a réfléchi avec Laure et on s'est dit que Éloi Valla, par sa connaissance très fine de la commune de Paris, son approche vraiment extrêmement pointue, pertinente, incarnée par le travail qu'il a fait aussi à la fois, voilà, il se dit dessinateur à travers ses dessins, ses publications, ses peintures, ses liens avec le musée où il a exposé il y a une dizaine d'années, son travail comme graphiste par ailleurs. Il nous semblait qu'il pouvait être très intéressant de le solliciter et qu'il pouvait apporter beaucoup de son regard et de ses connaissances à ce projet. Et oui. Donc on l'a sollicité et il est arrivé avec ce projet d'affiche et ce dessin qui fait partie du parcours de l'exposition et qui souligne pour moi un regard contemporain sur la commune de Paris qu'il synthétise à travers cette image de fraternité.
C'est les mains des hommes et des femmes du peuple.
Voilà. Oui, alors c'est des mains de travailleurs et travailleuses, voilà, c'est des mains du peuple parisien. Ouais. On peut penser aux mains de Jeanne-Marie, mais pas que, ce sont des mains anonymes. Ouais. Et le musée a eu beaucoup de chance, et cette exposition a eu beaucoup de chance d'avoir cette affiche, et Saint-Denis aussi, d'avoir la possibilité de pouvoir montrer cette affiche qui est d'une très très grande force, le dessin original est dans l'exposition et il est encore plus émouvant, je trouve, que l'affiche. Il est absolument magnifique. Par ailleurs, on a aussi un texte d'Éloi sur Vallès où il s'adresse directement à Vallès, et là aussi c'est un très beau texte parce que en plus d'être le dessinateur que l'on connaît, il écrit aussi sur la commune. Il avait eu ce feuilleton dans Les Jours au moment du 150e anniversaire qui est absolument extraordinaire et qui permet d'entrer dans la commune d'une façon extraordinaire.
Donc, vous avez compris, chers amis, il faut absolument aller voir cette exposition, elle est vraiment très importante. Il est déjà 18h, le temps passe vite entre gens de bonne compagnie, comme on dit. Alors, après, on va avoir une exposition encore sur Paul Éluard à partir du 6. Alors d'abord, pourquoi Paul Éluard? Et puis, Paul Éluard et Picasso, me semble-t-il.
Oui, Paul Éluard est né à Saint-Denis en 1895 et il a choisi de faire don à sa ville natale en 1951, donc un an avant sa mort, d'un ensemble d'œuvres et de documents qui ont constitué le noyau de ce fonds Paul Éluard, qui est aujourd'hui un fonds de référence sur le sujet. L'exposition que l'on consacre à l'amitié d'Éluard et Picasso va mettre en lumière cette relation fraternelle, il va être encore une fois question de fraternité, entre ce poète et ce peintre qui se sont connus dans les années 20 et qui, à partir du tournant des années 30, ont vraiment une relation extrêmement forte, à la fois amicale et artistique.
D'accord. Et Laure, des publications, projets, non?
Sur la commune. Ça sera probablement... à chaque fois, je me dis que je vais quitter la commune, et puis finalement, j'y reviens. Donc, pour l'instant, je réfléchis.
Réfléchis.
C'est en cours.
C'est en cours. C'est en cours. Alors, comme nous l'avons dit... donc, on peut y aller... jusqu'au 6 mars inclus.
Oui, jusqu'au 6 mars inclus, et c'est accessible en transport en commun depuis Paris très facilement.
Oui, la ligne 13.
Voilà, c'est à 3 minutes du métro.
C'est, voilà, hein, tout à fait. Donc c'est vraiment une exposition à avoir, et puis évidemment le catalogue à acquérir. Et comme on disait, comme on le disait, la commune c'est aussi un projet, c'est aussi, elle n'est pas morte. Alors on va l'écouter, interprété par Francesca Solville. C'est parti.
Tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. On a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Millière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horde.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps ruissalait sous la porte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Les journalistes policiers, marchands de calomnie, ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas, ont vomi leur eau forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Vallès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fiertas à lui servir d'escorte.
Ce qui prouve en tout cas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas,
que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte,
ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans le nom de Dieu
que la commune n'est pas morte.
Bien, alors, troisième temps de l'émission. Bon, je rappelle évidemment que les livres que nous avons déjà évoqués, eh bien, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook, hein, au fil des pages, dans la chronique souvent des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire, et que vous pouvez les commander à la librairie de la Fédération anarchiste, évidemment, Publico. Alors, un point d'histoire. Alors, toujours dans les luttes, Frédéric nous a trouvé un petit livre sur le gaz lacrymogène. Je trouve que c'est tout à fait d'actualité. Ça va rappeler d'ailleurs des souvenirs à certaines et à certains. Frédéric, à toi.
Oui, en effet, en ces temps de mouvements sociaux, je vais vous présenter un livre assez conséquent et très agréable à lire néanmoins. Petite histoire du gaz lacrymogène en sous-titre des tranchées de 1914 aux Gilets jaunes. Donc en ces temps de mouvements sociaux et de manifestations, j'ai pensé judicieux de vous présenter ce livre qui est un ouvrage complet ayant nécessité un travail de 5 ans de recherche, bien sourcé. Ce gaz a une longue histoire qui remonte au 19e siècle, une histoire bien trop longue à mon goût. Et ce gage, ce gaz, pardon, échappe à toutes les réglementations sur l'utilisation des armes chimiques. Vous découvrirez la chronologie, les différentes versions du gaz lacrymogène élaborées au fil du temps et les tests de grandeur nature. Les différents noms des entreprises fabricantes des gaz qui ont fait pression et se sont alliés à différentes personnes politiques dans plusieurs états de la planète, qui ces mêmes politiciens ayant curieusement parfois des intérêts financiers dans ces entreprises lacrymogènes. Ce gaz lacrymogène et son élaboration a été bien pensé en tant que moyen de répression des luttes sociales lors des manifestations et pour rien d'autre. Tout y a été étudié. L'aveuglement entraînant la déstructuration des cortèges, je bute un petit peu, l'impact incapacitant, perte du souffle, irritation des voies respiratoires, interpellation facilitée par le fait que les manifestantes et les manifestants sont rendus vulnérables et incapables de quoi que ce soit, même de fuir. Sans oublier l'impact et le traumatisme psychologique dissuadant toute reprise des manifestations le jour même ou sur le long terme, mais aussi sur la traumatologie induite par les projectiles contenant les gaz qui sont propulsés et qui causent des blessures physiques. De nombreux cas d'utilisation de ce gaz dans différentes grandes manifestations ou grands mouvements sociaux à différentes périodes de l'histoire, des analyses fines de ces utilisations reposant sur des faits historiques, où l'on apprend qu'aux États-Unis, ce gaz fut diffusé au moyen d'hélicoptères. Peu ou pas d'études sur la toxicité du gaz poivre ou gaz CS, comme il s'appelle. Néanmoins, vous trouverez facilement sur un moteur de recherche en tapant, je cite, « fiche toxicologique du gaz CS » de joyeux sigles qui ont de quoi faire frémir. Une tête de mort avec deux tibias, un logo figurant une personne avec une étoile blanche au niveau des poumons et un logo avec un poisson en train de crever dans un cours d'eau et un arbre ayant perdu ses feuilles. C'est réjouissant, n'est-ce pas? Bien sûr, on va me dire que c'est la dose qui fait le poison. En toute fin du livre figurent quelques planches fort utiles, vous donnant les noms des principales firmes qui fabriquent le gaz lacrymogène et ses implantations géographiques. Et aussi des dessins pour apprendre à identifier les différents types d'engins propulsés pour diffuser le gaz. Grâce à ce livre, vous comprendrez ce que l'utilisation du gaz lacrymogène sous-tend et que tout le monde a malheureusement expérimenté lors de manifestations. C'est un ouvrage conséquent, certes, car il le fallait, pour bien comprendre ce que l'on nous fait endurer. Je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Donc, je le rappelle, Petite histoire du gaz lacrymogène, Anna Feigenbaum, aux éditions Libertalia, 321 pages, 17 euros, que vous trouverez aisément et facilement à Publico. Je repasse le micro à Francis.
Bien, merci Frédéric. Alors on va tout de suite passer la parole, puisqu'il est 18h10, on va tout de suite passer la parole à Marie qui voudrait nous parler d'un historien.
Oui, André Michel.
André Michel, vas-y.
Donc il est décédé le 27 décembre dernier hein, et il était spécialisé en histoire et littérature du monde arabe. Il a d'ailleurs enseigné au Collège de France hein, où il avait une chaire là-bas hein, et il a été aussi l'administrateur hein, du Collège de France dans les années 80, puis le président de la BNF et il a traduit Les Mille et Une Nuits aux éditions Gallimard, collection La Pléiade. Donc l'ouvrage que je vous présente se lit donc intitulé Un arabe de siècle en siècle aux éditions Domins, il est paru en 2020 et il se lit à la manière d'un roman historique car il nous présente l'épopée d'un arabe qui relate à la première personne son voyage de siècle en siècle, un style narratif à la forme d'un témoignage historique. Voici une belle façon de relier l'histoire à la littérature. Le récit débute en Arabie centrale, dans les dernières années du 6e siècle de l'ère chrétienne, celle où vivent les nombreuses tribus bédouines, hein, avant l'Égypte et l'avènement de l'islam, la foi nouvelle prêchée par le prophète Mohammed. Cet arabe arrive ensuite à Médine, la ville qui accueille la famille du prophète en 624. Et il narre petit à petit son avancée pluriséculaire qui aboutit à Beyrouth en 1962, où il est l'heureux et fier représentant de la Ligue arabe aux premières heures de l'Algérie indépendante. Ce dernier chapitre représente d'ailleurs un bel hommage à tous ces intellectuels arabes qui ont œuvré pour l'autodétermination des peuples arabes, enfin libérés du joug colonial. C'est également un chaleureux appel de cet historien au vivre ensemble, à la tolérance religieuse et à l'égalité des droits. Donc, je ne vais pas vous faire non plus tout le résumé chapitre par chapitre, hein, ce n'est pas le but. Mais en fait, ce qui est intéressant à travers ces pages, c'est de suivre l'avancée du narrateur, qui n'est pas seulement un arabe, hein, il est un musulman, qui progresse en même temps que l'histoire avec un grand H. Les dates ont d'ailleurs été pertinemment choisies par l'historien André Miquel, hein, qui aurait pu de ce fait écrire un ouvrage beaucoup plus volumineux que celui-ci, hein, compte tenu de toutes les sources historiques disponibles et qui couvrent ce vaste espace géographique et temporel qu'est l'Orient et l'Islam. Mais en fait, il s'en est tenu judicieusement à des dates clés, une manière aussi d'initier des lecteurs qui n'ont pas pour ambition de se spécialiser dans l'histoire du monde arabe, hein, comme le feraient certains étudiants, mais qui souhaitent simplement en connaître les principaux repères, hein, à travers ce condensé d'histoire médiévale, moderne et contemporaine. Donc, en passant par Damas, l'Égypte, le Maroc, Tunis, Alger, Beyrouth, le voyage de l'arabe nous permet de bien nous rendre compte que l'histoire de l'Orient et l'histoire de l'Occident ont toujours coexisté en étant étroitement liées. Et en fait, l'histoire du monde arabe, elle n'est pas assez enseignée, hein, mais elle a fortement contribué à l'évolution des structures politiques, économiques et sociales de l'Afrique, d'Europe et du monde à travers les siècles. Et c'est ce que veut démontrer l'historien André Miquel à travers cet ouvrage. Donc, je rappelle donc le livre intitulé « Un arabe de siècle en siècle » par André Miquel aux éditions Domins, collection Méditerranée vivante, paru en 2020.
Alors, les éditions Domins, c'est une maison d'édition qui est située dans le sud de la France et qui est spécialisée dans les livres sur la culture arabe et sur le monde arabe. Donc, c'est assez intéressant. Tout Moi, j'aime fait. Bien. Bon, on a de très bons contacts avec les grandes maisons d'édition, mais les petites maisons d'édition, j'aime bien en parler parce que il y a un effort et j'avais eu l'occasion de les rencontrer dans un salon qui s'appelle le salon de l'autre livre, qui essaye de contrebalancer la puissance du salon du livre où on a l'impression d'être dans un grand marché, dans le Auchan ou dans le Carrefour du livre, alors que là on peut-être plus facilement discuter avec les gens. Alors, je crois que Frédéric, on a Dominique qui nous appelle là pour et donc tu vas nous la passer. Allô.
Oui.
Alors Dominique, bonjour.
Bonjour. Alors,
tu interviens sur la dernière partie de l'émission. Un roman de la vie. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un auteur ukrainien.
Oui.
Andrei Kourkov. Et le livre s'appelle « Les abeilles grises ». Alors, c'est un peu bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des abeilles grises ? Explique-nous un petit peu tout ça.
Oui. Alors, il a eu le prix Médicis étranger en 2022, hein, ce livre. Alors, quelques mots, comme d'habitude, sur l'auteur. Donc, l'auteur est né en 1961 près de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Mais avec sa famille, il est parti tout de suite s'installer à Kiev. Il a exercé, il a fait ses études, il a exercé différents petits métiers, même gardien de prison à Odessa. Et depuis 1996, il vit à Londres et préside l'Union des écrivains ukrainiens. Alors, il écrit en russe parce que c'est la langue qu'il a apprise lors de la russification de l'Ukraine. Et ses romans se avant de présenter Les Abeilles Grises, donc il a fait d'autres romans, notamment le Pingouin, que j'avais bien aimé. Il utilise souvent la fable animalière, hein, qui permet de dépeindre avec humour la vie politique et sociale des années post-soviétiques. Le Pingouin, c'est l'histoire d'un chômeur qui vit avec cette bestiole, et ce chômeur trouve un boulot qui consiste à rédiger à l'avance la nécrologie de gens vivants qui vont tous mourir car ce sont des opposants à la Russie. Donc vous voyez, c'est des références historiques connues. Alors, les Abeilles Grises. Alors, Kourkov raconte la vie des civils piégés dans la zone grise entre les armées ukrainiennes et les forces séparatistes pro-russes. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, il y a 1,5 million de personnes ukrainiennes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays. Et donc, il reste cette zone grise à l'est où les combats sont très intenses et les gens sont coincés dans un no man's land de 450 kilomètres. Alors, à l'époque, c'était en 2014. Les gens sont passifs et veulent seulement y survivre. Mais justement, il montre bien toute la complexité du conflit dans cette zone grise. Alors, il y a trois parties dans ce livre. Alors, la première partie, on voit vivre dans ce petit village de la zone grise deux habitants, l'apiculteur Sergueï et son voisin ennemi juré d'enfance, Pashka. Alors, on se doute qu'il y en a un qui est pro-ukrainien, Sergueï, et Pashka qui est pro-russe. Donc d'ailleurs, il y en a un qui ils habitent dans des rues inversées. Il y en a un qui habite la rue Lénine et l'autre la rue Shevchenko, qui est le grand poète ukrainien. Et donc ils vont s'amuser à inverser les plaques de rue. Alors bien sûr, il y a pas grand chose à faire dans cette zone. Donc le Pashka est buveur de vodka à plein temps. Il a une pelisse avec de la vodka et il a comme devise « fumer, c'est sa santé, détruire. Boire, c'est son âme, réjouir. » Alors, ces deux personnages sont coincés dans les champs creusés de trous d'obus, mais semés quand même de fleurs sauvages et de sarrasins. Les maisons sont abandonnées, les bombes ou les obus pleuvent à n'importe quel moment. Il n'y a pas de courrier, pas d'électricité. Il y a des cadavres dans les rues sans qu'on sache à qui ils appartiennent. Alors, la deuxième partie est plus joyeuse. L'apiculteur décide de partir en Crimée parce que les abeilles périclitent, comme il n'y a pas assez de fleurs. Donc on va suivre le voyage de ce personnage qui va découvrir la réalité du conflit en passant à de multiples frontières ou checkpoints. C'est un peu comme une odyssée d'Ulysse, fatigué par la guerre. Alors, il dit à un moment donné, l'auteur dit, il les conduisait là où régnait le calme, là où l'air s'emplissait peu à peu de la douceur des fleurs des champs, où la symphonie de ces fleurs serait bientôt soutenue par celle des cerisiers, pommiers, abricotiers et acacias. Alors, il y a des moments, bien sûr, de critique politique. Quand il arrive en Crimée, il rencontre une dame qui va critiquer, bien sûr, les Tatars, qui est une minorité musulmane. Je vous lis le passage. Cette dame dit à l'apiculteur, « Vos Tatars, là, on va les expulser. On va sûrement les forcer à retourner dans leur Ouzbékistan. Ils auraient mieux fait d'y rester tranquilles plutôt que de revenir ici. » Alors, Sergueï répond, « Mais c'est leur terre. » Leur terre, répond la dame, c'est la meilleure. Elle est russe, cette terre, et chrétienne depuis la nuit des temps. Bien avant les Tatars, les Russes ont apporté de Turquie le christianisme ici. Il n'y avait aucun musulman. Bon, alors l'apiculteur dit, je connais pas exactement l'histoire et je ne sais pas comment les choses sont passées. La dame répond, les choses se sont passées comme Poutine l'a dit. Poutine ne ment jamais. Bon, et la troisième partie, l'apiculteur revient dans sa zone grise et retrouve son quotidien. Alors bon, j'ai aimé le livre d'abord bien sûr pour les abeilles, parce que Kourkov célèbre les abeilles, qui est pour lui une société idéale, ordonnée, fidèle, qui affronte les difficultés collectivement, jusqu'à un fantastique poétique, puisque les abeilles deviennent elles-mêmes grises, quand il est dans sa zone grise. Alors, je vous cite un passage sur les abeilles. L'apiculteur se dit que les humains pourraient apprendre des abeilles. Les abeilles, grâce à leur discipline et leur travail, avaient construit le communisme dans les ruches. Les fourmis, elles, étaient parvenues à un vrai socialisme naturel. N'ayant rien à produire, elles avaient juste appris à maintenir l'ordre et l'égalité. Mais les humains. Alors j'ai adoré, il y a des passages où les militaires des deux camps viennent se ressourcer en se couchant sur les ruches. Il paraît qu'en se couchant sur les ruches, on a toute l'énergie des abeilles. Et puis bon, des passages aussi humoristiques, puisque sur la route, il vend son miel et il dit à un moment, il suffit d'y broyer dedans des feuilles d'ortie ou de le qualifier de miel anti-alcoolique pour que les ventes augmentent. Alors, j'ai bien aimé aussi les passages très sonores hein, de ce livre. On entend la guerre, hein, on entend mais aussi à un moment donné, l'apiculteur dit « Je me souviens du silence de la paix ». On entend la neige. Hein, il dit « C'était là un silence qui vous prenait par l'âme avec des mains glacées et ne vous lâchez plus avant longtemps ». Alors, en Crimée, bien sûr, là, tout est plus calme. Il dit « L'air teinté d'invisibles clochettes, on l'en pouvait être indépendant et invisible, ou n'importe quelle créature vivante, fût-elle un arbre ou un pied de vigne, possédait une voix. » Et puis, beaucoup de références, l'apiculteur aspire au silence, parce qu'il dit que c'est bon pour ses abeilles. Il dit « Je voudrais que le silence devienne plus assourdissant, on aurait pu le caresser comme un chat ou un chien. » Donc voilà, c'est vraiment un très très beau livre qui est en même temps une belle histoire sur la nature, sur une belle histoire humaine. Mmh. Alors je termine sur l'actualité parce que la zone grise recouvre aujourd'hui 3000 kilomètres. En actualité, Kourkov vient de publier un autre livre qui s'appelle « L'oreille de Kiev » où là on va retrouver Kiev dans les années 1919. Avec notamment Magno, hein, que vous connaissez bien dans l'émission. Mmh. Et puis, on est encore en pleine actualité dans les zones grises avec le procès de ce jeune homme, Vladislav, qui a été enrôlé de force par les Russes à 18 ans et qui est passé dans l'armée ukrainienne. Et donc, il montre bien la difficulté de se positionner dans les zones grises. Hein. Mmh. Et enfin, je voudrais signaler le nombre incroyable de poètes ukrainiens. J'en ai recensé déjà 350. On pourra faire ultérieurement une émission.
Oui, il est 24. Tu vas pas nous les citer, les 350, là.
Non. Il y a... Bon, en plus, les plus anciens sont déjà morts, soit dans les geôles du Tsar, soit dans les goulags, soit récemment. D'ailleurs, il y en a un qui vient de mourir, Volodymyr Valoulenko, qui avait caché son journal d'occupation au pied d'un arbre. Hein. Mais donc, j'ai découvert que c'était un pays qui vénérait ses poètes hein, depuis très longtemps. Donc, voilà. Pour la riche actualité.
Eh ben c'est bien. Donc les abeilles grises, à la fois un documentaire et puis de beaux moments de poésie aussi. Hein,
dans oui, ce que c'est tu très nous poétique.
Alors ouais. tu nous rappelles donc le titre Les abeilles grises, c'est d'Andrei Kourkov.
Oui.
Quel éditeur?
Alors c'est Liana Levy.
Oui. Yana Levy en 2022, l'édition 2022.
Oui. Et le pavois, on peut l'avoir en point poche. Hein,
oui. Aussi... Et puis sinon, celui dont tu parlais, là, qui vient de sortir, il est sorti chez
il
qui?
Il est toujours chez Liana Levy.
D'accord.
Kourkov est toujours chez Liana Levy.
Bon. Eh bien, écoute, merci. La prochaine fois, tu nous parles de qui de quoi?
Alors, on saute au Moyen-Âge français avec Christine de Pizan et Marie de France.
D'accord, très bien. Donc, en fait, c'est toujours intéressant parce que tu devais, au départ, nous faire une émission par mois. Et puis, maintenant, tu nous fais une chronique tous les 15 jours parce que, bah, finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de romans, beaucoup de thèmes. Et puis, bon, tu nous fais aussi de la poésie. Hein. Il y a de
oui,
la
oui,
poésie
oui.
qui
intervient. Oui,
il y a
trop d'actualité.
C'est ça.
Un puits sans fond.
Un puits sans fond. Fond, oui, tout à fait. Eh bien, écoute, merci, et puis dans 15 jours.
Hein? Oui, allez.
Au revoir. Bien, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci à nos deux invités qui sont restés avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Dans 15 jours, le mercredi 22 février, nous recevrons Daniel Guerrier des anciennes éditions Spartacus et Christian Mailleux des éditions Sileps. Rassurez-vous, le fonds Spartacus reste d'entre bonnes mains puisque ce fonds va passer globalement, enfin pour plus de 70 livres, aux éditions Sileps. Nous en reparlerons dans 15 jours. Alors d'ici là, écoutez, bonne lecture. N'oubliez pas d'aller voir l'exposition au musée de Saint-Denis. Bonne lecture, et donc l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite évidemment ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager.
La cigarette sans cravate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, droite sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu.
Firmar no pergaminho, assumir.